Do-do. All right, alors, on commence le cours. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors aujourd'hui, on est à la page 140 et on va débuter ça avec un verset de la Bhagavad Gita, c'est la ligne 32.
Parfait. C'est bon.
Si tu veux lire, s'il te plaît.
Avec plaisir. Alors, je reprends la phrase. Donc, cette philosophie est confirmée dans la Bhagavad Gita 5.29. Bhoktaram yagna tapasam sarvaloka maesvaram suridam sarva bhutanam jadva mam santim richati. Bhoktaram, le bénéficiaire. Yagna, des sacrifices. Tapasam et des pénitences et austérités. Sarvaloka, de toutes les planètes et de tous les devas qui y résident. Maha-Ishvaram, le Seigneur suprême. Shu-Ridam, le bienfaiteur. Le bienfaiteur, oui. Sarva, de tous. Bhutanam, les êtres. Jadva, sachant cela. Mam, moi, Shri Krishna. Satim, le soulagement des souffrances matérielles. Rishati, obtient. Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les devas, l'ami et bienfaiteur de tous les êtres, l'être pleinement conscient de ma personne, échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix. Teneur et portée. Les âmes conditionnées, emprisonnées dans les serres de l'énergie illusoire, désirent toutes avec ardeur trouver la paix en ce monde, mais ignorent les conditions requises pour l'obtenir. La Bhagavad Gita nous en donne le secret. Reconnaître Krishna comme le bénéficiaire de toutes les activités humaines. L'homme doit tout sacrifier au service transcendantal du Seigneur, car toutes les planètes et leurs dirigeants, les devas, lui appartiennent. Aussi, les Védas, Svetasvatara Upanishad 6.7, déclarent-ils Tam Ishvaram, Paramam Maheshvaram. Personne ne lui est supérieur. Il surpasse même Brahma et Shiva, les plus grands des devas. Sous l'emprise de l'illusion, les êtres distincts cherchent à se rendre maîtres de tout ce qui les entoure, alors qu'en réalité, l'énergie matérielle, l'énergie inférieure du Seigneur, les domine entièrement. Le Seigneur règne surtout sur la nature matérielle quand toutes les âmes conditionnées sont assujetties à ses lois rigoureuses. À moins de comprendre ces vérités fondamentales, on ne peut connaître la paix, tant individuellement que collectivement. La paix parfaite ne s'obtient que par le complet développement de la conscience de Krishna. Et être conscient de Krishna, c'est d'abord avoir compris que Krishna est le maître absolu et que tous les êtres distincts, y compris les puissants devas, lui sont subordonnés. Ce cinquième chapitre expose de façon pratique la conscience de Krishna, qu'on connaît également sous le nom de Karma Yoga. La question des yagnis, à savoir comment atteindre la libération par la pratique du karma yoga, y trouve une réponse. Les actions accomplies dans le cadre de la conscience de Krishna, en ayant parfaitement conscience de la suprématie du Seigneur, et le savoir transcendantal sont de nature identique. De fait, le yagna yoga mène au bhakti yoga, la pure conscience de Krishna. L'homme conscient de Krishna agit en ayant connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur. Sa conscience ne sera pleinement épanouie que lorsqu'il connaîtra parfaitement Krishna, Dieu, la personne suprême. L'âme pure, en tant que partie intégrante et fragment de Dieu, est son éternelle servante. Mais dès lors qu'elle entre en contact avec Maya, la nature matérielle illusoire, à cause de son désir de domination, elle s'expose à maintes souffrances. Étant que ce contact avec la matière se poursuit, l'âme agit en fonction de ses besoins matériels. La pratique de la conscience de Krishna, parce qu'elle éveille notre conscience spirituelle, nous permet de vivre une vie spirituelle au cœur même de la matière. Et plus on progresse dans cette voie, plus on se libère des griffes de la matière. Le Seigneur est impartial. Tout dépend du bon accomplissement de ses devoirs dans la conscience de Krishna, qui aide à maîtriser les sens et à vaincre les influences de la convoitise et de la colère. En dominant ses passions, on préserve sa conscience de Krishna et on se maintient au niveau transcendantal appelé Brahma Nirvana. La conscience de Krishna intègre automatiquement le yoga en 8 phases, car elle conduit au but ultime. On peut s'élever graduellement par la pratique de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi, mais ces 8 étapes ne sont qu'un prélude à la perfection suprême, perfection atteinte par la pratique du service de dévotion qui seule peut donner la paix à l'homme.
Jai, merci, merci, Jai. Merci. Om Gyana Timiram Dasya Gananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai.
Jai.
Alors, est-ce que tu as des questions?
Mais en fait, c'est drôle parce que ça rejoint exactement une discussion que j'ai eue hier avec mon conjoint. Et justement, en fait, sur le fait que on se croit en fait bénéficiaire et propriétaire de tout ce qu'on fait, mais au final on l'est pas et on est tellement illusionné par ça qu'on le croit dur comme fer en fait. Donc on continue à toujours en fait servir la matière alors que l'idée de servir Dieu paraît comme limite un sacrifice insurmontable pour certains parce que c'est comme ok, on est finalement des esclaves en fait. C'est ça qui est ressorti hier. Moi, j'étais comme non, 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 non. C'est par amour qu'on doit se diriger vers Dieu, pas par pénitence ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu notre discussion d'hier. Donc c'est chouette de lire ça.
Good. Alors effectivement, pour rejoindre ce que tu viens de dire. Si on regarde à la page 141, le deuxième paragraphe de la teneur reportée, là on s'est dit ici, sous l'emprise de l'illusion, les êtres distincts cherchent à se rendre maîtres de tout ce qui les entoure, alors qu'en réalité, l'énergie matérielle, l'énergie inférieure du Seigneur les domine entièrement. Alors ici, il y a 2 choses. Un, c'est les êtres distincts, ce qu'ils font et ce à quoi ils sont habitués et ils sont attachés. C'est d'être le maître de tout ce qui les entoure. Alors, la deuxième chose, c'est l'énergie matérielle, qui est l'énergie inférieure du Seigneur, qui les domine entièrement. Mais, en général, la majorité des gens ne sont même pas au courant qu'il y a une énergie qu'on appelle énergie matérielle et laquelle est une énergie de Dieu. Ça, ce concept-là, là, ça clique pas, là. Ces gens, ils comprennent, oui, il y a eu la création, mais ça va pas bien, bien loin. Disons, à moins d'être un théologien, là, qui a fait des études en théologie, et même ça, j'ai des réserves là-dessus. Ça clique pas du tout. Alors, les gens sont habitués à ce à quoi ils sont habitués. Et c'est-à-dire vouloir avoir, surtout les gens qui ont un esprit très contrôleur. Ça, c'est comme la fièvre au maximum, ça. Ils veulent tout contrôler. C'est comme on dit, obéir au doigt et à l'œil. Mais les personnes qui exigent ça, qui veulent ça, ils ont une façon de faire qui est en général assez autoritaire, merci. Et si ça ne marche pas à leur goût, ils sont frustrés, ils vont laisser savoir, ils vont se mettre en colère parce que ça ne marche pas à leur goût. Par contre, cette capacité de contrôler n'est pas si mauvaise que ça, en fait, parce qu'il faut savoir l'utiliser aussi au service de Krishna. Parce que dans le service de Krishna, si t'as pas de contrôle, ça va pas non plus. Alors, mais il y a une façon de le faire. Alors, et la façon de le faire, faut aller chercher l'exemple d'un pur dévot qui, juste par sa présence personnelle ou ses instructions, il y a rien qui est laissé au hasard. Tout est sous-entendu que ça doit être exécuté dans la conscience de Krishna, c'est-à-dire avec une conscience de Krishna dans laquelle aucun détail n'est épargné. Alors, il y a des dévots, là je veux pas critiquer personne, on parle juste en général, et des dévots néophytes ne sont pas habitués à tout contrôler au détail près. Ça, on pouvait le... Donc, en plus, le Prabhupada était là, et l'interaction qu'il avait avec ses disciples, là, ou même si quelqu'un regarde des vidéos de Prabhupada avec ses disciples, on peut voir ça, que les dévots sont pas attentifs à tous les détails. Et Prabhupada les reprend dans le tournant, puis là, il leur dit, où il va leur poser des questions. Comment ça se fait que ceci ou cela? Puis là, le dévot sait pas quoi répondre. Et c'est un dévot, disons, soi-disant, jugé avancé parmi les dévots, mais vis-à-vis Prabhupada, il n'est pas à la cheville même de Prabhupada. Alors, c'est pas pour critiquer, mais c'est juste comme ça, parce qu'on subit le conditionnement de la nature matérielle et on est étourdi. On est assez distrait, merci. Alors, quand on a le service de dévotion à faire pour Krishna, ben, il en reste un peu de ça, de ce conditionnement-là, et faut être très conscient. Alors, une fois, il y a plusieurs années de ça, Bhakti Marg Swami avait expliqué, en tout cas, m'avait expliqué dans une conversation ou un email, mais je pense plus une conversation qu'autre chose, que avant d'être conscient de Krishna, il faut être simplement conscient. Ça, c'est très instructif parce que on fait des choses, je parle pour moi-même, là. On fait des choses puis on s'en aperçoit même pas qu'on a fait telle ou telle chose et puis, alors ça vaut ce que ça vaut. Alors, cependant, avec l'association des dévots, il y a moyen de devenir plus conscient de Krishna et d'être inspiré par l'association des dévots à être plus conscient de Krishna. Puis plus conscient de Krishna, ça veut dire plus dans les détails pour offrir un service à Krishna. Mais ça vient avec l'avancement spirituel parce que ce qu'on fait dans le service de dévotion un jour, sans plus ou moins sans trop de conscience, ben peut-être quelques années plus tard, ou un certain nombre d'années plus tard, on va être plus conscient. Ou, par exemple, si on a fait un service dans le passé pour Krishna, surtout quand on est jeune, là, et on n'a pas la même appréciation que lorsqu'une personne est rendue plus âgée. Parce que c'est juste comme ça, c'est les choses, c'est la vie est faite comme ça. Et comme par exemple, je vais donner un exemple de ma vie personnelle. Par exemple, quand j'étais en France, j'étais Sankirtan leader, ce qu'on appelle. Alors j'avais un groupe de dévots avec moi, dévots, dévotes, et on faisait Sankirtan à chaque ville et village et tout et tout. Et la vie étant ce qu'elle est, on a une certaine appréciation, mais pas plus qu'il ne faut. Parce que ça devient quelque chose, c'est la routine. Moi, j'ai fait ça pendant 6 ans de temps sur la route. Alors, Après un certain temps, tu connais la routine et puis. Cependant, là aujourd'hui, après des dizaines d'années que j'ai pas fait ça, si on me redemandait puis on me dit, OK, fais-le pour une semaine ou 2 semaines, j'apprécierais tout. J'apprécierais beaucoup plus cette opportunité de rendre ce genre de service-là. Et c'est un service qui, disons, quand tu fais du sankirtan, tu prends une certaine habitude face au public et tu as aussi une certaine, t'as pas le choix, là. Tu te fais une certaine carapace aussi face au public parce qu'il y a du public qui est vraiment méchant, sarcastique. Et ça dépend des pays, mais des certains endroits, c'est plus qu'ailleurs. Et tu t'habitues à ça. Ce qui fait que les années passent et tu te rends compte, j'ai fait face à cette adversité-là la majeure partie de ma vie, là. Et tu sais que c'est là. Et si faire du sankirtan pur, là, où tout le monde est gentil, tout le monde accepte la conscience de Krishna du premier coup, ça n'existe pratiquement pas. C'est rare que quelqu'un va tomber sur une personne exceptionnelle qui soit elle a déjà entré en contact avec des dévots. Et tout est à la grâce de Krishna, parce que le service de dévotion, c'est sous l'énergie, c'est sous l'effet de l'énergie interne de Krishna. Alors, des fois, une personne que tu rencontres va avoir certaines questions intéressantes. Tu réponds, t'es content de répondre et puis d'essayer de faire de ton mieux pour lui donner la meilleure explication possible. Et ça, c'est sous l'énergie interne, ça. Même si la personne en avant de toi est pas, a pas de l'air plus dévote que ça, mais son âme a parlé, a exprimé un peu un désir d'avoir la conscience de Krishna sans le savoir, nécessairement. Et c'est transcendantal, ces discussions-là. Et ces discussions-là vont faire leur petit bonhomme de chemin. Qu'en temps et lieu, si Krishna le veut, ces personnes-là vont avoir une autre occasion, peut-être de rencontrer une autre personne consciente de Krishna, avoir un autre son de cloche, ou au cours d'une deuxième rencontre, va se rappeler, ah, la première rencontre, la première personne m'avait dit telle chose, puis là, supposons qu'elle s'était posée des questions sur la chose. Et là, elle revient, puis elle dit, ah, on m'avait dit ci, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et ça, c'est un pas de plus dans leur progrès personnel. Et ça, un dévot, il va, comment on peut dire, il va allumer rapidement ce genre de discussion-là, que, en fait, c'est la grâce de Krishna. Il y a pas de hasard. En tout cas, un dévot ne perçoit pas les choses que c'est le fruit du hasard. Il y a toujours Krishna
La vie n'existe pas.
en arrière dans tout. Alors, c'est bien important. Et bon, à la fin de ce paragraphe-là, le deuxième paragraphe, c'est écrit ici, la dernière phrase, et être conscient de Krishna, c'est d'abord avoir compris que Krishna est le maître absolu et que tous les êtres distincts, y compris les puissants devas, lui sont subordonnés. Alors, en m'en venant ici aujourd'hui, parce que je suis pas à la maison, à ma vraie maison, mais chez
Oui,
ma
c'est vrai
belle-sœur encore,
encore. C'est vrai.
ça achève, là. C'est le dernier week-end.
C'est au dernier week-end parfait avec
Ouais,
Krishna.
la semaine prochaine, c'est supposé d'être tout fini. On devrait, même dimanche, supposer être capable de coucher chez nous.
C'est
Alors,
beau.
ouais. Alors, on va voir comment ça va finir par finir. Et j'écoutais une classe de Prabhupada, puis Prabhupada parlait de la foi. Et comment on peut atteindre la foi? Pas la foi, mais je dis, ça prend un petit peu de foi, avoir un petit peu d'intérêt pour la conscience de Krishna. Et la deuxième étape, c'est l'association des dévots. Dans l'association des dévots, notre foi va grandir et toutes les étapes sont énumérées par Rupa Goswami dans un verset célèbre qui parle justement de la foi, du progrès de la foi qui se transforme et ultimement arrive à l'amour de Dieu. Alors, Prabhupada parlait même que pour atteindre la perfection, il faut atteindre l'étape de bhava. Bhava, ça veut dire l'extase dans le service de dévotion. Et Prabhupada dit, ça, c'est l'étape qui vient juste avant d'atteindre la perfection complète. C'est bhava. Alors, avant bhava, il y a d'autres étapes. Les étapes sont la foi, l'association avec les dévots. Ensuite, il y a s'engager avec constance dans le service de dévotion. La constance en est un élément. Ensuite, développer un attachement pour le service de dévotion. De là, développer un goût pour le service de dévotion. Et après l'extase et après le pur amour de Dieu. Ça se fait étape par étape, une après l'autre. Et dans tout ça, l'association des dévots est toujours essentielle. Parce que c'est avec les dévots qu'on peut s'associer, qu'on peut parler de Krishna, qu'on peut entendre parler de Krishna, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Ben, en fait, alors, la question que j'aurais ici, c'est si on a quelqu'un, par exemple, justement, qui, je dirais, qui est trop, je dirais, peut-être feignant pour aller lire ou qui peut-être a un petit intérêt pour la conscience de Krishna, un petit, qui pose des questions de temps en temps, mais pas trop, et donne des réponses satisfaites ou pas satisfaites, et puis veut pas forcément s'associer, mais veut pas forcément lire non plus. Y a-t-il un moyen de pousser un peu plus? Parce que bon, il y a le prachat, je sais, qui peut aider à petit à petit, mais ça, c'est, voilà.
Ben, moi, je dirais qu'il y a pas grand-chose à faire parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un
C'est ça.
à la conscience de Krishna. Si on essaye de forcer, mettons qu'on essaie, on prend ce chemin-là, la personne peut devenir rebutée et au lieu d'avoir l'effet désiré, c'est encore pire. Parce que les gens vont se sentir forcés. Et il n'y a personne qui aime ça, vraiment, là. À moins de comprendre le bénéfice en bout de ligne, que ah oui, ça vaut la peine de me forcer. Oui, peut-être je suis paresseux. Et si quelqu'un me pousse dans le dos, c'est pour mon bien. Si la personne comprend ça, il y a un peu d'espoir. Mais vaut mieux que ça vienne du cœur
C'est ça.
pour la personne.
OK.
Alors, comme moi, mon épouse est pas si dévote que ça, elle-même va le dire, elle est pas dévote. Et je ne la force pas.
OK.
Mais cependant, s'il y a une petite opportunité de lancer une certaine réalisation philosophique, très terre à terre, mais indiquer le lien avec Prabhupada, par exemple. C'est comme des fois, il arrive des choses, puis je vais dire à mon épouse, ah, Prabhupada dit telle, telle chose. Mais pas de la grande philosophie, là. C'est juste pour dire, ah, Prabhupada a dit quelque chose là-dessus. Et comme, par exemple, un sujet, ça peut être sur la tolérance, faire preuve de tolérance, ou même si la personne accepte, elle accepte que tu sois dévot ou dévote, c'est déjà là un grand pas d'accompli. C'est déjà une base sur laquelle il peut y avoir une certaine forme d'échange, mais en même temps, en respectant la distance que cette personne veut garder. Mais des fois, les choses parlent par elles-mêmes. C'est comme des fois, s'il arrive, il va arriver dans la vie des accidents. Des accidents tragiques où un certain nombre de personnes perdent la vie. Puis là, la question va venir. Ah, moi, je comprends pas. Si Dieu est bon, pourquoi qu'il fait que la vie soit si cruelle comme ça?
Faut pas demander ça à un dévot.
Ou que des êtres chers nous quittent. Alors moi, je lui réponds, c'est la vie matérielle qui est faite comme ça. Il n'y a rien de temporaire, il n'y a rien de permanent. C'est comme ça que ça se passe ici. Alors, mais de là à leur faire accepter, ah, il y a une autre vie où ces choses-là n'arrivent pas. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est genre, tu gardes ça dans le tiroir de pour un bon bout de temps. Peut-être qu'un jour, ça va être pertinent, mais tu mets pas trop de moutarde. Ça, sur le sandwich, si tu veux, mais c'est selon temps, comme Prabhupada dit, faut prêcher selon temps, circonstances et individus. Alors, c'est des individus. Il y en a, au lieu d'être moins, il y en a, c'est plus. Ça, j'ai déjà connu ça. Des gens avec qui tu peux discuter philosophie 25 heures sur 24. Mais en bout de ligne, il n'y a rien qui va se passer. C'est juste genre parler. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la philosophie?
C'est ça.
Ils font rien. Il y en a comme ça. Il y en a qui viennent au temple qui sont comme ça. J'ai déjà connu une personne comme ça. Et puis, c'est juste genre, quand ce genre de personnes-là, ben, tu peux parler un petit 5-10 minutes, puis après, on passe à un autre appel. C'est peut-être comment on peut dire? C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, d'un certain point de vue, parce que tu veux pas donner l'impression aux gens que tu te débarrasses d'eux autres. Mais d'un autre côté, il faut être réaliste aussi, c'est que ça donne quoi de parler, puis il n'y aura pas de fruits, ou du moins, ça, dans les apparences, ça apparaît pas. À un moment donné, il y a des limites, là.
Mais c'est ça, exact. Exactement. Merci
c'est
beaucoup.
Ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Je sais pas si c'est indiscret, mais est-ce qu'avec votre femme, vous êtes mariée à un mariage védique?
Non, pas, non, non, un mariage légal.
Ok.
Simplement.
Parfait.
Et voilà.
C'est bon. Merci beaucoup.
Ouais. Mais mariage védique, pas védique, parce que j'ai déjà eu une femme avant. Et ça change pas grand différence, je te dirais.
Ok. Parfait. C'est bon. J'aime ça. Merci.
Parce que normalement, mariage védique, c'est genre une fois. Quand il y a un mariage védique, c'est devant Krishna. Même si quelqu'un peut dire, ben, Krishna n'est pas là. Non, Krishna est là sous la forme du feu. Le sacrifice de feu, c'est Krishna. Et il y a les autres témoins qui sont les dévots assemblés. Et normalement, dans la culture védique, si quelqu'un fait une promesse, il ne doit pas briser sa promesse. Ce qui fait que, comme par exemple, si on prend du point de vue, Prabhupada en parle de ça dans le livre de Krishna, ou en tout cas dans ses livres, que parfois, une femme, une jeune femme, va avoir un mari qui est plus vieux qu'elle et qui est, disons, si on peut dire, entre guillemets, qui est assez grincheux, merci. Mais parce qu'elle a épousé cet homme-là, pour une raison ou pour une autre, soit par un arrangement familial, comme ça peut arriver en Inde, que deux familles conviennent ensemble de les marier pour certains avantages. Puis là, ben, la femme est prise avec ça, puis le mari, il est ce qu'il est. Mais elle n'est pas supposée sortir de ça, dans la culture védique. Alors, ça, c'est sûr que dans le contexte moderne des choses, c'est le genre de choses qui est très, très débattable. Et que, je suis sûr, en Inde, il y a un paquet de gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui veulent aller à la façon facile, matérielle, de se dégager. Mais en termes de culture védique, c'est genre marié une fois, c'est marié toujours. Et puis, bon. Alors, même entre dévots, dévotes, dans Iscon, il y a autant, pratiquement parlant, il y a autant de divorces qu'il y en a dans le monde, la société en général. C'est un fait, ça. Alors, à moins que ça ait changé depuis le temps, là, mais... Parce que moi j'avais entendu de Indradumna Swami, j'ai lu ça de lui. Parce que Indradumna, c'est un ami à moi de longue date. Aujourd'hui, il est Swami, mais à l'époque, quand je le connaissais, il était pas Swami, il était marié, il avait une femme. Et son nombre d'années plus tard, donc, je lis de sa part que si tu veux, il l'a pas dit exactement comme ça, mais si tu veux que le mariage continue pendant longtemps, ben, il faut que l'homme considère sa femme comme une servante de Krishna. Alors, c'est la même chose, on peut dire qu'on peut lier ça à ce qu'on a lu aujourd'hui, le deuxième paragraphe, tu vois, c'est écrit ici. Sous l'emprise de l'illusion, les êtres distincts cherchent à se rendre maîtres de tout ce qui les entoure. Et il y a combien de maris qui veulent posséder leur femme et faire tout ce qu'ils veulent avec, selon leurs caprices, les abuser sexuellement, et les battre, les insulter, les rabaisser. C'est chose courante, ça. Ça existe. Et dans l'autre sens, il y a un paquet de femmes aussi qui font la même chose. Qui, tu sais, ces gens, c'est comme une compétition. Qui va dominer l'autre? Alors, il y a des femmes, ils ont le dessus aussi. Et qui insultent, veulent rien savoir, sont pas obéissantes pour une miette. Et ça joue dans les deux sens. C'est autant un bord, autant l'autre bord. Et c'est pour ça que c'est difficile pour des dévots ou des dévotes qui comprennent pas c'est quoi l'affaire d'un mariage conscient de Krishna. Ils comprennent pas, c'est un doit servir l'autre. C'est tout. Et comment tu sers l'autre? Ben, la meilleure façon de le faire, c'est avec respect. Le respect est très... C'est la mentalité du Seigneur Chaitanya. Chanter les saints noms étant plus tolérant qu'un arbre et étant toujours prêt à offrir ce respect à autrui, libéré de tout sens de faux prestige. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Hey, je peux pas... Peut-être, peut-être. C'est pas la mentalité que Seigneur Chaitanya a enseignée. Alors, si dans le mariage, autant pour l'un, autant pour l'autre, et qu'en plus, tu rajoutes que les deux ont le même maître spirituel en plus, alors là, ça devient, ben, si je veux plaire à mon maître spirituel, je dois agir comme un dévot ou une dévote se doit d'agir. Puis là, à ce moment-là, ça devient un mariage qui est harmonieux dans un esprit de service mutuel. Et Prabhupada, dans le Srimad Bhagavatam, il y a une teneur portée, Prabhupada écrit que pour une femme, on peut renverser aussi pour une femme, pour un homme, mais dans son livre, il écrit pour une femme, le mariage, ça veut dire servir un ami dans l'intimité.
Oui.
Alors, ça, c'est intéressant comme,
j'aime beaucoup.
Comme réflexion. Alors, c'est, puis un autre genre de mentalité aussi qui n'est pas l'idéal. Parmi des dévots, surtout les hommes, là, c'est de vouloir être swami avant le temps. Ils sont mariés, ils ont une femme, ils ont des enfants, puis là, dans leur tête, ça leur trotte. Ah, ça, c'est Maya, ça, c'est l'attachement, c'est ci, puis c'est ça. Puis là, apparemment, s'ils pouvaient être libérés de tout ça, puis en même temps, sans le dire entre parenthèses, pour devenir une âme libérée, ben, qui cherchent à se libérer de leur vie familiale. Parce que, pourquoi? Parce que dans les livres de Prabhupada, il y a plein de grandes personnalités qui ont fait ça. Mais là, avant de te considérer une de ces grandes personnalités-là, t'es pas rendu là.
Non.
Et surtout si c'était, mettons, entre 20 ans et 40 ans. Ça ne fit pas, là. Alors, ce qui est arrivé dans ISKCON, et l'histoire est là. Des dévots qui ont pris sannyas, pris l'ordre du renoncement dans leur vingtaine, jeunes. Et puis là, ils ont quitté, ça veut dire qu'ils ont quitté une femme. Peut-être qu'il y avait des enfants, mais c'est plus genre quitte la femme parce que monsieur veut devenir un swami, sans critiquer outre mesure. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas tenu le coup après non plus. Alors, ils se sont retrouvés à se reprendre une nouvelle femme, puis continuer dans la vie de famille. Et il y en a beaucoup là-dessus. Il y en a beaucoup parmi les disciples que Prabhupada à qui il a donné le sannyas, l'ordre de renoncement, la majorité ont tombé comme ça. Alors, pour le moment, dans le moment présent, quand ça s'est produit, quand Prabhupada, disons, les a initiés sannyasis, Prabhupada voulait avoir des sannyasis pour prêcher. Mais avec le temps, il y en a plusieurs qui n'ont pas tenu le coup. Alors, c'est pas pour critiquer. Pourquoi on dit ça? Simplement pour dire que si quelqu'un n'est pas prêt, il est pas prêt, puis c'est tout. Alors, comment est-ce que... Prabhupada écrit dans une teneur portée dans la Bhagavad Gita, Prabhupada dit, personne ne devrait prendre l'ordre du renoncement à moins que son cœur soit purifié. Si son cœur n'est pas complètement purifié, il ne devrait pas. Alors, purifié de quoi? Ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, c'est ça. Alors, on veut pas critiquer, disons, outre mesure, parce que c'est pas qu'est-ce qu'on a à gagner de ça, mais on peut gagner des leçons de l'histoire, de qu'est-ce qui est arrivé. Et puis, essayer d'éviter, dont les erreurs, qui sont indiqués. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
Non, c'est tout. Merci beaucoup. Hare Krishna.
Hare Krishna. Une phrase intéressante, toujours à la page 141. L'avant-dernier paragraphe. C'est dit ici, ligne 39. La pratique de la conscience de Krishna, parce qu'elle éveille notre conscience spirituelle, nous permet de vivre une vie spirituelle au cœur même de la matière. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Ce qu'on vient de ce dont on vient de parler là, dans les minutes qui précèdent, si, quand c'est dit ici, nous permet de vivre une vie spirituelle au cœur même de la matière. Ça veut dire que les dualités matérielles sont n'affectent pas le dévot ou la dévote. C'est la vie spirituelle qui prend le dessus. Et c'est tout à fait sain, S-A-I-N, pas S-A-I-N-T, mais S-A-I-N, que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que Krishna est toujours là, même au sein de la matière. Et lorsque la matière est utilisée au service de Krishna, la matière devient transformée en énergie spirituelle. Alors, comme par exemple, si mari et femme se voient, comme on vient de dire, comme serviteurs, servantes de Krishna, c'est spirituel. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait une crainte ou une exploitation de un ou de l'autre s'ils sont vus simplement dans un esprit de pur service de dévotion? Alors, on peut donner un exemple de couple, pas mondain, pas ordinaire, mais c'est effectivement, mais un couple qui était vraiment dans les règles de l'art, si tu veux, et même plus que ça. Mais alors, on regarde l'exemple de la mère et le père de Krishna, qui sont Vasudeva et Devaki. Alors, si on lit dans le livre de Krishna, ils ont fait des austérités pendant longtemps, 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 avec un seul but, c'était d'avoir un fils qui soit Dieu, la personne suprême. Alors, à un moment donné, quand Krishna est apparu, quand il est apparu sur Terre et qu'il leur a parlé, il leur dit, vous avez fait de nombreuses austérités pour avoir Dieu. Mais vu que je suis Dieu et qu'il n'y en a pas un autre Dieu, alors il faut que j'apparaisse comme votre fils. Alors, Krishna est devenu le fils de Vasudeva et Devaki. Mais ça, c'est par leur prière sincère, leur pure dévotion. Krishna ne choisit pas n'importe qui, là. Il va choisir ses purs dévots ou dévotes. Et puis, Krishna comble les désirs de tous les dévots, dévotes. Et ça, c'est un cas vraiment, comme on dit, top, au sommet, Vasudeva Devaki, dans le livre de Krishna, ça. Ou dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant, que le BBT a publié, là. C'est Hridayananda Guru. Non, Prabhupada. Excusez. Dans le 10e chant traduit par la portion traduite par Srila Prabhupada, c'est expliqué par Srila Prabhupada. Ce que je viens de dire, là. Alors, maintenant, un autre sujet intéressant, à la ligne 43, la première ligne. Le Seigneur est impartial. Tout dépend du bon accomplissement de ses devoirs dans la conscience de Krishna, qui aide à maîtriser les sens et à vaincre les influences de la convoitise et de la colère. Ce sujet-là, les influences de la convoitise et de la colère, ça revient plusieurs fois dans la Bhagavad Gita, en particulier de Srila Prabhupada. Et il n'y a pas d'autre façon d'arriver à surmonter la convoitise et la colère que par le service de dévotion. Alors, dans la Bhagavad Gita, au chapitre 3, versets 42-43, Si tu veux, si tu lis ces versets-là et teneur et portée, ce sujet-là revient de la convoitise et de la colère, qui sont des obstacles sur le sentier de la réalisation spirituelle. Et Prabhupada explique là aussi que c'est la seule façon d'arriver à maîtriser les sens, c'est par le service de dévotion. C'est un engagement supérieur. C'est aussi simple que ça. Alors, le dernier paragraphe, à la page 142. Alors là, Prabhupada parle du yoga, Ashtanga Yoga, le yoga en 8 phases. Mais Prabhupada dit, ces 8 étapes ne sont qu'un prélude à la perfection suprême, perfection atteinte par la pratique du service de dévotion, qui seule peut donner la paix à l'homme. Alors, la paix, là, c'est genre, pour avoir la paix, il faut être 100% engagé dans le service de dévotion. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de paix? C'est la proportion d'activité pécheresse dans laquelle une personne peut être impliquée. Et si la personne, disons, remplace cette proportion d'activité pécheresse par une proportion équivalente, mais en service de dévotion, elle n'est plus sujette au péché, elle est affranchie du péché. Et à ce moment-là, elle va avoir la paix et la cerise sur le sundae, c'est d'avoir la compréhension de Krishna. Elle va pouvoir comprendre Krishna. Plus quelqu'un comprend Krishna, plus la personne va développer son amour pour lui et cette personne-là va goûter un bonheur qui n'est pas atteignable au niveau matériel. Alors voilà. Alors là, on va changer de sujet parce qu'on va continuer à lire. Est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. On était à la ligne 8, hein, c'est ça?
142, ligne 8.
Ouais, c'est ça. L'attrait pour la vie sexuelle et tout ce qui en découle va et vient continuellement dans un mental impur, en défaut ou à court de concentration sur Krishna. Les sens transmettent au mental leurs 1000 et un désirs de contact avec leur objet. S'ensuit toujours plus de pensées sensuelles de toutes sortes laissées à une imagination moindrement fertile. Et c'est sur cette base que subtilement et grossièrement, la vie matérielle se prolonge indéfiniment. Mais dans le fond, à ce jeu cynique, oscillant entre convoitise et colère, l'âme assiste en témoin ou esclave de tout ce spectacle, relugant, pardon, au cycle des morts et des renaissances sans fin. Elle peut même être quelque peu au courant de ces choses et tout de même les ignorer sous le coup de la tentation. Et c'est encore pire pour qui a la vraie connaissance mais qui manque d'agir en conséquence, si l'on se réfère à la teneur et portée précédente, Srimad Bhagavatam 2.6.20. Que faire? Cette même teneur et portée nous dit, celui qui connaît un tel fourvoiement ne pourra être sauvé que s'il a la fortune de rencontrer un pur bhakta. Dans ce cas, que veut dire rencontrer un pur bhakta? 1. En avoir rencontré un au moins une fois dans sa vie. 2. Si c'est en personne, ce qu'on appelle vapu, c'est l'idéal. 3. Sinon, c'est par sa vani, ses enseignements. 4. D'une façon ou d'une autre, pour cause d'une puissante influence dégagée spontanément de par la présence même d'un pur bhakta, ladite rencontre finira tout naturellement par se résumer en un souvenir permanent, indélébile, continuellement chéri au quotidien dans le cœur d'une âme fortunée venue en ladite présence. Pratiquement parlant, pareille rencontre a pouvoir de changer la vie de toute âme conditionnée venue en contact avec un pur bhakta. Elle marque le début assuré de la vie spirituelle. C'est le début de la fin de la vie conditionnée. Ce n'est plus qu'une question de temps.
Ouais, merci beaucoup.
Oui.
Là, tu vas m'excuser une petite seconde.
Pas de
Je vais aller
souci.
allumer une lumière, ça va, je vais pouvoir
Vas-y, vas-y.
voir mieux.
Il n'y a pas de problème.
Merci. Bon. OK. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, pas spécialement.
OK. Alors, comme Prabhupada dit, le seul bonheur qu'il y a dans la vie matérielle, c'est le sexe. C'est le seul plaisir qu'il puisse avoir. Alors, ça, on peut le voir dans beaucoup de formes dans le monde matériel, juste ça. Et puis, ça termine toujours par le même manque à combler. Et tout le monde reste sur son appétit. Même si ça semble bien agréable pour les sens, l'âme, elle, n'est pas comblée, spirituellement parlant. Alors, voilà. Alors là, ensuite, on parle de la rencontre avec un pur bhakta. Ça, c'est intéressant. Et on dit, la dite numéro 4, la dite rencontre finira tout naturellement par se résumer en un souvenir permanent, indélébile, continuellement chéri au quotidien, dans le cœur d'une âme fortunée venue en la dite présence. Alors ça, c'est le moins qu'on peut dire dans le cas des disciples de Prabhupada qui ont vu Prabhupada, qui ont parlé avec Prabhupada, qui ont échangé avec Prabhupada, qui ont vécu avec lui, qui l'ont servi. Et même une personne qui n'aurait pas eu autant d'interactions, mais qui a vu Prabhupada, si elle a un peu de chance, elle va s'en souvenir pour le restant de ses jours, elle aussi. Parce que c'est une personnalité comme Prabhupada, c'est l'exception parmi les millions et les millions d'êtres humains. Et il n'y en a pas deux pareils, là. Alors, et là, je vais faire un commentaire parce que il y a un dévot du temple qui est venu faire qui a participé aux travaux chez nous. Un jeune garçon indien, sûrement dans la vingtaine, mais pas, mettons, je dirais, je sais pas s'il a 25 ans, mais en tout cas, dans la vingtaine, pas 30 ans, ce garçon-là. Et le dévot, son superviseur, me disait, ah, lui, il pose beaucoup de questions. Alors, lui, il savait que moi aussi, je suis un dévot. Alors, il n'a pas manqué sa chance. Alors, il s'est dit, hey, si j'ai la chance de pouvoir nous poser des questions, je vais lui poser des questions. Mais il m'a posé juste une question. Et sa question était très, très pertinente. Et il m'a demandé, il dit, pour nous, la deuxième génération, parce qu'il ne se considère pas génération des disciples de Prabhupada. Alors, il dit, pour nous, la deuxième génération, quel serait le conseil que tu nous donnerais? Alors, je lui ai répondu, ben, chanter Hare Krishna. Sur le moment, c'était la réponse, mais en même temps, je me souvenais que Prabhupada avait dit, ben, chantez Hare Krishna et soyez heureux. Ça, c'est une réponse. Mais il n'est pas revenu à la maison, ce garçon-là. Et je l'attends
Non.
le rencontrer une deuxième fois, si ça arrive. Et j'ai des petites nouvelles pour lui. Dans le sens que là, j'ai une autre réponse pour lui. Et que je pense qu'il est très pertinente. À savoir, si j'avais à lui répondre, s'il était en avant de moi aujourd'hui, là, je lui répondrais d'apprendre à connaître Prabhupada. De s'associer avec Prabhupada. Mais d'apprendre à connaître Prabhupada le plus possible. Ça, je pense, c'est essentiel pour la deuxième génération. Parce que là, je regarde aussi certaines choses qui sont venues à mes oreilles. Et puis, d'après ce que j'ai entendu, puis je vais pas aller dans les détails, là, je peux voir que, ah, ils veulent faire, je parle du temple, là. Ils veulent faire telle, telle chose, mais dans la culture védique, ce n'est pas permis.
C'est ça, je voulais voir si tu, voilà, si t'avais t'avais des ouïes par rapport à ça, justement, parce que moi aussi j'ai eu quelques petites choses, j'étais comme, ah, ok, je suis curieuse d'en savoir un peu plus, parce que voilà, sans critiquer bien sûr, mais juste pour en savoir un peu plus, comme, qu'est-ce qui se passe exactement, parce que, ouais.
Ouais, parce que moi, c'est ce que je compris. Mais je vais pas vraiment entrer dans les détails parce que ça devient de la politique à ce
Non,
moment-là.
c'est ça exactement.
Alors, là, je rentrerai pas dans les détails. Et parce que moi, je ne suis pas en charge du temple. J'ai déjà été en charge du temple dans les années 80. Et moi, j'aurais pas procédé à ce qu'ils veulent faire là en ce moment. Ça, le temps le dira. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne qu'ils ne. Moi, ce que je regarde, c'est comment ça se fait qu'ils savent pas.
C'est ça.
Et ça veut dire il y a quelqu'un en quelque part, il a pas assez écouté. Qu'est-ce que Prabhupada ou ce que est la culture védique pour. Il y a moyen d'apprendre ces choses-là.
Oui.
Alors, ça, c'est sous toute réserve.
Exactement.
Et je ne veux pas entrer dans les détails. Mais ma réponse, c'est étudier les instructions de Prabhupada. Apprenez à connaître Prabhupada à travers ses livres, à travers les films, les vidéos, à travers les anecdotes que des disciples de Prabhupada peuvent donner. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et ça peut faire une grande différence dans la vie d'un dévot. Alors, je pense aussi quand j'écris mettons ce paragraphe-là. Je me dis, par exemple, des personnes qui ont vu Jésus aller à leur époque. C'est pas tout le monde qui est devenu disciple de Jésus, mais il y en a un bon paquet, par exemple, qui sont devenus disciples de Jésus parce qu'ils l'ont vu. Ils ont été transformés par son association. Et puis, ça a changé leur vie complètement. Même quitte à mourir pour leur foi en lui. Et ça, c'est l'effet des grands dévots, des grands Vaishnavas. C'est qu'ils ont un effet transformateur chez leurs disciples, chez les personnes qui les suivent.
Justement, j'ai une
Alors,
question par rapport à ça. Si quelqu'un vient et me demande, mais pourquoi Krishna ne se montre pas à tout le monde dans un rêve, ne se montre pas en fait à tout le monde directement pour montrer sa suprématie, et ben là on n'aura pas le choix de le croire et de faire, ok, on se met à genoux puis on est serviteur. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
ben, la première difficulté, c'est que c'est ce qu'on dit, c'est qu'on est aveugle pour commencer. Alors, donnons, je vais reculer aussi. Prabhupada s'est fait souvent poser la question, pouvez-vous me montrer Dieu? Parce que les dévots, eux autres, était convaincu que Prabhupada avait vu Dieu ou voit Dieu parce que c'est un pur dévot. Alors, comme le Brahma Samhita dit, Premanjana Churita Bhakti Vilo Chanena, celui dont les yeux sont oints du baume de l'amour de Dieu peut voir Dieu à tout moment dans son cœur. Alors, pour un pur dévot comme Prabhupada, ça, c'est l'évidence. Alors, et même Prabhupada qui expliquait, mettons, à Paris, que un jour, quand on sera qualifié, on pourra voir que les murtis sont non différentes de Krishna, que Krishna est là en personne. Alors, le problème, c'est que on n'a pas de vision spirituelle. Et à cause de ça, comme la question que tu viens de soulever, ben pourquoi que Krishna se montre pas? Mais Krishna, il se montre 24 heures sur 24 en avant de toi tous les jours, à chaque moment. Mais tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tu n'as pas suffisamment de dévotion pour Krishna. Sinon, tu le verrais. Alors, quand on ne peut pas voir Krishna en personne, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ça, c'est la question.
Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ben le maître spirituel? Se
Non.
rapprocher du maître
O
spirituel?
oui, ça, c'est une bonne question aussi.
Ok.
Mais qu'est-ce qu'il nous reste à voir si on ne voit pas Krishna?
Ses énergies?
Exactement. Il nous reste, c'est ça qu'il nous reste à voir. C'est-à-dire, les énergies de Krishna, on les voit tout le temps. Il y a l'énergie matérielle, il y a l'énergie marginale, il y a la nature. Tout ce qui existe, c'est l'énergie de Krishna. Alors, si on fait le lien, ah, ça, c'est l'énergie de qui? De Krishna. Alors, si on a appris d'un pur dévot qui est Krishna, comme Prabhupada dit, les gens ne savent pas ce qu'est Dieu. Prabhupada dit souvent ça comme ça. Il a pas dit, ils savent pas qui est Dieu. Il a pas dit ça. Prabhupada ne dit pas ça comme ça. Et il dit, en anglais, il dit, they don't know what God is. Ils ne savent pas ce qu'est Dieu. En d'autres mots, ils ne connaissent pas la position de Dieu. Alors, pour un dévot de Krishna, ben Dieu, c'est Krishna. Alors, c'est beaucoup plus facile à faire la connexion pour un dévot de Krishna parce que il a une forme à qui il peut penser, à laquelle il peut penser, la forme de Krishna. Et Krishna, comme dans une classe de Prabhupada, Prabhupada dit, il explique, parce que nous, on ne peut pas voir Krishna qui est entièrement spirituel. Même si Krishna est en avant de nous, là, on ne le verra pas avec les yeux qu'on a, parce qu'il est entièrement spirituel. Alors, Prabhupada dit, Krishna, lui, il se montre d'une façon qui va avec ce que nous pouvons voir. Et ce que nous pouvons voir, c'est les éléments matériels. Alors, on peut voir la pierre, on peut voir le bois, on peut voir la peinture. Alors, Krishna se manifeste dans la forme des murtis qui sont faites de pierre, de bois, de peinture, mais qui sont pas différents de Krishna. La déité de Krishna. Alors, ça, on peut voir. Alors, si on a la dévotion, on va voir, on va sentir que Krishna est là en personne. Et c'est pas difficile non plus, pas difficile à saisir. Dans le sens que si tu regardes des photos de déités, elles ont l'air vivantes. Elles ont l'air vivantes. Moi, je me souviens, j'avais 14 ans à l'époque. J'étais pas dévot. Je savais pas que j'allais devenir un dévot une de ces bonnes journées. J'allais au séminaire, moi. Dans un séminaire. Et j'aimais lire. Je lisais toujours un livre après l'autre. Ça, c'est mon adolescence, ça. Alors, je suis allé à la bibliothèque, puis là, j'ai trouvé un livre sur une biographie de Ramakrishna. Alors, j'ai pris le livre, un petit livre à peu près comme à peu près un demi-pouce, mettons 1 centimètre d'épaisseur. Et je lis le livre. Et à un moment donné, il y a une photo de déité dans le livre. Ça, c'était la première fois que je voyais des déités, mais j'avais aucune idée de c'est quoi. Et je me souviens très bien de mon impression, c'était, ah, elle a l'air vivante. Elle a l'air
Wow.
vivante.
Hare Krishna, c'est beau.
Mais j'avais pas idée, tu sais, comment ça peut être comme ça. Mais je sais que j'ai lu ce livre-là, puis c'était la première fois que je voyais une déité dans ma vie. Et quand je suis allé au temple la première fois, ça m'a jamais effleuré l'esprit ce que j'avais vu dans ce livre-là avant. Et au temple, à l'époque où j'ai joint le temple de Montréal, il y avait juste des petits jagannaths. Il n'y avait pas de Radha Krishna, il n'y avait pas de Gaur-Nitai, pas de gros Jagannath non plus. C'est juste les petits Jagannaths. Les tout petits Jagannaths, gros comme ça. Oui,
Ils y sont encore, hein. C'est ça, ceux qui sont devant. Je
ouais, les
pense,
petits
c'est ça.
Jagannaths,
Oui,
c'est les dé...
c'est
Et ça,
ça,
c'est des déités que Prabhupada a apportées à Montréal,
Wow.
qui ont installé pour que les dévots aient des déités. Alors, moi, je regarde ces déités-là. Tout proche, j'étais en avant. T'avais à peu près 1 mètre qui te sépare à l'époque. T'as pas de grande balustrade, puis des ci, puis des ça. C'est juste comme un cordon, puis tu vas pas plus loin, là. Mais t'es quasiment rendu dessus, là. Et je regarde tes déités. Et puis, je comprends pas. Je comprends
C'est quoi?
vraiment pas. Je me dis, wow, c'est drôle, ça. Mais, je te dis, une fois, même avant d'être dévot, mais quand il y avait des kirtans le dimanche pour la fête du dimanche, je pouvais sauter 2 pieds dans les airs pour ces déités-là.
Wow,
Et tous
c'est
les autres
beau.
dévots, c'était pareil.
Elle est
Les
beau.
kirtans étaient vraiment extatiques. Puis là, tu te demandes, à quoi c'est dû? Mais c'est dû au fait que Krishna il est là, dans la forme de déité. Alors, qu'elle soit grosse, grande, ça n'a pas d'importance. Krishna est là en personne. C'est ça qui fait que les dévots deviennent extatiques parce que les déités sont contentes. Il y a du monde qui vient pour la fête du dimanche. Il y a une prédication qui se fait. Il y a un arti qui se fait. Une vénération, une adoration de Krishna, alors que les déités sont contentes. Alors, si les déités sont contentes,
Merveilleux, tout va bien.
c'est l'extase
Exact.
pour tout le monde.
Wow. Ça, il y a quelque chose dans les kirtans, quand il y a vraiment l'énergie, ça devient esthétique, là, c'est ouf. C'est quelque chose.
Ouais, c'est quelque chose.
Ah ouais.
Et c'est en fait, les dévots qui sont très sincères sont, je te dirais, vont vibrer plus que d'autres qui sont, pas pour critiquer non plus, mais quand le mental est plus brumeux avec disons, des choses matérielles, peu importe laquelle, donc, c'est pas pareil. C'est pourquoi l'adoration des déités, c'est très important. Et ça indique aux dévots si t'es bien situé ou moins bien situé, ça pourrait être mieux, mettons. Les kirtans sont bien extatiques. Un dévot suit les principes régulateurs comme il se doit et lit beaucoup. En tout cas, si un dévot est à sa place, la félicité va être à sa place aussi pour le dévot. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
Non, c'est tout pour le moment. Merci.
OK. Alors ici, on dit que justement la rencontre avec un pur bhakta, elle marque le début assuré de la vie spirituelle. C'est le début de la fin de la vie conditionnée. Ce n'est plus qu'une question de temps. Alors, en temps et lieu, parce que quand quelqu'un vient en contact avec un pur dévot, C'est ce qu'on appelle faire du bénéfice spirituel, mais inconsciemment. En sanskrit, on appelle ça agyata sukriti, que tu obtiens le bagage les bagages d'activités pieuses suffisants pour amorcer le service de dévotion. Alors, comme Prabhupada disait, disons, il parlait aux dévots, puis il dit aux dévots, j'ai créé vos activités pieuses. Alors, ça veut dire, c'est sa personne, c'est sa bénédiction. Et même, j'écoutais une classe aussi, cette semaine, Prabhupada qui dit, pour comprendre les livres, pour comprendre la Bhagavad Gita, ce n'est pas une question d'érudition. Et c'est une question de miséricorde. Ça prend la miséricorde d'un maître spirituel authentique. Et c'est ça qui va faire que quelqu'un va comprendre la conscience de Krishna. Et il faut avoir la foi dans ce que Prabhupada dit. Puis effectivement, moi quand je suis devenu dévot, peu après, en hiver, les dévots à Montréal, des années 70, c'était en 1970, à cette époque-là, quand j'ai joint. Et les dévots à Montréal, on avait comme routine d'aller chanter dans la rue, même en hiver, peu importe la température. Et même le président du temple avait demandé à Prabhupada si on pouvait dispenser d'aller chanter dehors s'il fait, mettons, 0 degrés Fahrenheit, qui est plus bas en Celsius. Ça doit être dans les moins 10, moins 15, moins 20,
c'est
je
ça.
sais pas, là.
Je pense que je suis ça.
Alors, et Prabhupada avait dit oui. Alors, c'est un peu, tu sais, dans la tête d'un jeune dévot, là. Mais surtout des années plus tard, pas dans le moment immédiat, tu te poses la question, mais si Prabhupada dit oui, mais pourquoi tu continues d'abord? Ça, c'est, mettons, en parenthèse. Alors, pour s'éviter d'aller dehors dans les grands froids, puis aussi pour le fun de le faire aussi, c'est plus genre la deuxième raison que la première raison. Alors, les dévots, il y avait ce dévot qui s'appelle Dayalji, probablement que tu connais, un dévot aîné de Prabhupada au temple, là. Alors, lui, sa responsabilité, c'était de trouver faire des contacts avec les écoles, les collèges, les universités, pour qu'on aille on appelait ça des engagements. Qu'on aille, disons, prêcher à l'université ou dans un collège. Puis là, ben, on s'amène avec des Simply Wonderful, une assiette pleine, du halava, d'un foie. Puis là, on va chanter, puis un petit kirtan dans la classe, et puis une petite classe, puis là, on distribue prasad. Alors, dans mes débuts, moi, j'aimais ça, prêcher. Alors, à un moment donné, une opportunité de faire la classe, dans la classe. Alors, j'ai bien aimé ça. Et j'ai trouvé, j'étais, pas dire mort de rire, mais je trouvais ça ironique dans un sens que me voici à l'Université de Montréal, entre autres, je me souviens de ça. On avait été au HEC, je pense.
Oh.
Alors, me voici à l'Université de Montréal. Moi, j'ai pas été à l'université. Moi, j'ai arrêté ce cours, mon affaire. J'étais au cégep, deuxième année, je commençais, puis j'ai arrêté ça. Je me suis dit, non, je vais devenir dévot. Ah, j'ai pas été à l'université. Puis là, je trouvais ça ironique. Moi, voici un gars qui a arrêté d'aller à l'école, qui s'en vient faire la classe à ces gens-là, qui sont à l'université. Alors, je trouvais ça ironique.
C'est génial.
de mon côté.
C'est génial. Comme
Et
quoi, il faut, c'est pas besoin d'être érudit pour, voilà, c'est la grâce.
ouais, c'est la grâce du Krishna. Et
Exactement.
moi, j'ai toujours constaté que les garçons au cégep étaient plus faciles à dealer avec que ceux d'université. À l'université, ils sont plus, ce qu'on m'expliquait à l'époque, sont déjà dans leurs affaires, tu sais, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, où ce qu'ils veulent aller. Ils sont moins ouverts. Mais les cégepiens, t'avais pas cette, disons, une couche de faux prestige, j'appelle, là.
Mais
Toi,
tu
tu
en es la
l'as.
preuve.
Ouais, c'est ça.
T'en es la preuve. Si
Ouais.
j'aime, ça marche mieux. Ça,
Ouais.
c'est parfait.
Mais plus ouvert, plus facile. Et tu le vois aussi dans le genre de question qui est posée, c'est moins genre challenging, mise au défi. Mais dans une façon ou d'une autre, ça a toujours été des expériences qui sont, comment dire, très agréables. C'est le fun
Exact.
de faire ces expériences-là, de prêcher.
Je trouve ça quand même difficile de prêcher quand on a justement en face un discours qui est plus dans le, comme ils disent des fois, l'avocat du diable, c'est-à-dire vraiment pas essayer de comprendre, mais juste vouloir jouer la contradiction. Juste vouloir pour défier. Et ça, des fois, c'est, moi, ça peut venir me déstabiliser des fois parce que je suis comme, pouf, ok, là, c'est plus fun, là.
Ouais, mais faut prier Krishna. Demander à Krishna qu'il nous donne l'intelligence avant même que ces choses-là arrivent. Que Krishna nous prépare. Et quand mettons, supposons qu'on est soi-disant déstabilisé, c'est pas une raison non plus de, comment on peut dire, d'être déstabilisé. Parce que Krishna va donner l'intelligence, ça sera pas long, pour savoir quoi dire la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des notes aussi. Quand Krishna donne une réalisation, là, comme on dit en québécois, faut être vite sur le piton comment dire, pour prendre ça en note et pour ne pas la perdre. Parce que ça, c'est un cadeau de Krishna qu'il nous donne. C'est comme on dit en anglais, it's out of the blue. Tu t'attends pas à ce que ça vienne, mais ça vient de l'intérieur. Et ça, c'est la grâce de Krishna. Et si Krishna voit qu'on fait attention quand que ça vient, ben, je suis sûr que de son côté, il va nous en donner d'autres. Mais si on fait pas attention, pourquoi il en donnerait d'autres? On fait pas
Exact.
attention.
Exact.
Alors, voilà.
Génial.
Alors, c'est ça qui se passe dans le monde de la conscience de Krishna. Est-ce que des questions ou commentaires?
Non, c'est vraiment parfait. On aurait dit que la classe était... C'est génial. Merci, Hare Krishna.
Good, ça a bien été par
À
la grâce de
nouveau.
Krishna.
À nouveau.
Alors, le prochain cours, ça va avoir lieu dans 2 semaines. Et puis, on va parler du temps la prochaine fois. En tout cas, comme on avait terminé ici, ce n'est plus qu'une question de temps. Et j'ai lu un peu ce matin, là, et à la page 143, le sujet du temps est discuté. Alors, du moins un peu, là. Alors, c'est... On aura du plaisir encore la prochaine fois.
Ah, c'est ça, j'ai aussi regardé un petit peu là, mais je me garde pour la prochaine fois, c'est bon. Avec Krishna.
Oui,
Ah,
avec
génial.
Krishna.
Merci beaucoup.
OK, alors là, j'ai reçu les 2 fichiers, là. Je parle
Oui.
de l'index. J'ai reçu vos 2 fichiers. Et je vais attendre que la maison chez nous revienne à la normale un peu pour me mettre là-dessus. Je vais avoir un délai peut-être d'une semaine ou quelque chose. Puis après, ben, on va finir, puis on va remettre acquis de droit.
Parfait.
Et puis, ben, un gros merci à toi et
Merci à
Virginie.
toi. Merci à toi pour nous laisser faire ce beau service parce que ça a été un petit peu difficile de mon côté avec le nouveau travail, mais j'étais contente de passer une bonne soirée là-dessus. J'ai fait, allez, let's go. J'ai le goût. C'est parti.
Good.
Merci à toi.
Merci, ça nous fait plaisir. Alors voilà, on se revoit dans 2 semaines et puis je
Oui.
souhaite un bon 2 semaines et puis
Merci.
Hare Krishna.
Allez, Krishna, bonne de semaine pour vous. Merci
Oui,
énormément.
merci
Allez,
de
bon.
venir au cours, c'est très apprécié.
Merci à toi pour toutes ces
Et,
connaissances. Hare Krishna.
ah, c'est la grâce de Krishna. Voilà.
Allez, bon.
Allez, bon.